la Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cela faisait 4 saisons que nous étions avec vous en compagnie des auteurs et nous avons eu envie d'aller encore plus loin dans l'arpentage des grandes créations de l'art et de l'esprit. Voici pourquoi à partir d'aujourd'hui, la compagnie des auteurs devient la compagnie des œuvres, de toutes les œuvres, qu'elles soient littéraires, plastiques, cinématographiques, architecturales ou musicales. Nous parlerons de tout, mais toujours dans le même esprit et avec la même entrée, c'est-à-dire l'entrée par des créateurs dont nous vous racontons la vie et le travail. Et c'est avec un cinéaste que nous inaugurons notre nouveau terrain de jeu, Stanley Kubrick, né aux États-Unis en 1928 et mort en Angleterre à l'âge de 70 ans. Il a repris un à un la plupart des grands genres du cinéma, avec à chaque fois l'envie de dépasser ce qui avait déjà été fait. Et il est à ce titre un repère exceptionnel dans l'histoire du 7e art, comme nous allons le voir ici jusqu'à jeudi. Et nous le verrons tout d'abord par le prisme de sa vie et de sa personnalité avec Baptiste Roux, mon invité du jour. Demain, c'est Michel Chion qui nous fera voyager dans sa filmographie. Mercredi, avec le philosophe Philippe Fraisse, nous chercherons à interpréter la cosmogonie politique du cinéaste et nous parlerons du rapport de son œuvre avec la violence des nazis. Enfin, jeudi, en première partie, Brigitte Gauthier viendra nous parler, entre autres, de la musique dans ses films, tandis que Thierry Jousse nous proposera en seconde partie une analyse du film Eyes Wide Shut. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver. Voici la compagnie des œuvres.
Jeremy Bernstein, tape, November 27, side A. Born July 26, 1928, New York City. My father is a doctor. One sister, Barbara, married. Two children, lives in New Jersey, 6 years younger. Her husband is a lawyer. I was taught to play chess at the age of 12, but did not play seriously until about age of 17, when I joined the Marshall Chess Club in New York on West 10th Street, between 5th and 6th Avenue. Okay.
La voix de Stanley Kubrick dans un enregistrement de 1966 pour débuter cette nouvelle série, une série qui commence donc avec vous, Baptiste Roux. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes professeur de lettres en classe préparatoire au lycée Moisson de Meaux. Vous êtes collaborateur de la revue Positive portée par Michel Simon, qu'on connaît très bien ici à France Culture. Puis vous avez écrit sur beaucoup de sujets très variés, sur Patrick Modiano, mais aussi sur le train, dans La poésie du rail, c'est chez Transboréal. Vous êtes aussi intéressé au métro, avec les arcanes du métro en 2010. Vous êtes un peu ferrovipate, c'est
oui,
comme
c'est
ça qu'on dit.
Je pense qu'on peut dire ainsi, oui.
Kubrick, lui, n'était pas ferrovipate particulièrement. Il n'y a pas beaucoup de trains, finalement, dans son œuvre.
Je pense qu'on aurait beaucoup de difficultés à consacrer une thèse au train dans l'œuvre de Stanley Kubrick.
Ça vous a démangé, j'ai l'impression.
Oui, peut-être, effectivement.
Ça aurait été réunir vos deux passions.
Par exemple, oui. Non, mais effectivement, je serais même incapable de citer un plan ou une séquence importante avec un train dans l'œuvre de Stanley Kubrick.
Parfois, on dit que les ferrovipates sont un petit peu obsessionnels. Je ne sais pas si c'est vrai, vous allez nous le dire. Mais...
Sans doute, mais Stanley Kubrick était encore plus.
Ouais, tant qu'il aurait pu finalement être ferrovipate. Donc tout vous intéresse, hein, Baptiste Roux, on s'en rend compte. Là aussi, on peut dire, je pense, comme Kubrick.
Alors Kubrick, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un polymathe, c'est-à-dire quelqu'un qui a été un élève plutôt médiocre, mais pas médiocre par manque de compétences. Médiocre parce que tout simplement, comme j'écris dans mon livre, il pourrait ressembler à ce qu'on appelle maintenant un élève douancé ou un HPI au potentiel intellectuel. C'est-à-dire quelqu'un qui comprenait tout très vite, mais qui voyait pas du tout l'intérêt de se soumettre à l'autorité. D'une part, sa seule passion, c'était pour la physique. Mm-hmm. Il avait d'excellentes notes en physique. C'est pour ça que c'est grâce à la physique, d'ailleurs, équivalent de son bac. Et il appréciait beaucoup son professeur d'anglais également, Aaron Treister, auquel il a consacré une série de clichés photographiques en 44. Mais sinon, c'était quelqu'un qui était très dilettante, qui n'hésitait pas à se dispenser des cours et qui voyait pas exactement l'intérêt de ce qu'on lui enseignait. Ça se retrouve de toute façon dans son œuvre. Hein. Le rapport de Kubrick avec l'autorité constitue vraiment une des matrices incontournables de son œuvre.
Donc le fait qu'il soit autodidacte est important pour le comprendre.
C'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui n'a fait aucune école de cinéma. Alors, parmi les très très nombreux malentendus qui existent sur Kubrick, dans lesquels on a vu quelqu'un qui était à la fois mégalomane, reclus, misanthrope et obsessionnel, il y a aussi un complexe d'infériorité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a acquis une culture personnelle sur le tas, alors certes grâce à sa deuxième femme, Ruth Sobotka, mais qui n'est pas passé par les universités. C'est quelqu'un qui a acquis notamment sa lecture de Freud de manière assez informelle et qui a appris à faire des films tout simplement en regardant ceux des autres, ceux notamment de Max Ophüls, bien sûr, mais aussi en sur le tas, avec par exemple son tout premier film, Fear and Desire, sur lequel il exerce effectivement tous les postes. Je pense que mis à part la musique qui est signée par son ami Gerald Fried, le montage, la direction de la photo, mais aussi bien évidemment la mise en scène, tout est effectivement porté par Kubrick lui-même. Peut-être pas dans un désir de maîtrise absolue, mais parce qu'il désirait avant tout apprendre. À l'époque de Fear and Desire, le film est tourné en 50, il n'a jamais que 22-23 ans.
Et au fond, on peut se dire qu'on ne peut pas faire un film qui ressemble à la perfection des films de Kubrick si on ne fait pas absolument tout, si on n'a pas un regard sur le moindre détail.
Alors, j'ai envie de dire que c'est le propre de tous les très très grands cinéastes, pour ne pas dire des génies. Orson Welles est quelqu'un qui connaissait tout du montage d'un film, de la direction, de la photographie, même chose pour Bergman. Kubrick, de toute façon, dans un premier temps, a été contraint par des conditions économiques à exercer tous les postes. Je crois que sur Fear and Desire, il ne devait pas y avoir plus d'une dizaine de personnes en équipe technique. Le film a été tourné sur de longues semaines dans les montagnes qui se trouvent, enfin les moyennes montagnes qui se trouvent du côté de Los Angeles, et tout simplement parce qu'il a été obligé de pallier l'absence de moyens. Mais ça se retrouve même dans ses tout derniers films. Si vous prenez Eyes Wide Shut, où il a tout de même un budget illimité, il a tout de même les deux plus grandes stars de l'époque, c'est-à-dire Nicole Kidman et Tom Cruise, il n'y a pas plus de 15-20 personnes. Kubrick disait même, quand il y a plus de 15 couverts à laver sur un plateau, ça veut dire qu'il y a un gros problème.
Ah, parce qu'il faisait tout, y compris laver la vaisselle.
Non,
alors.
C'est pas lui qui le faisait.
Ça, c'est un perfectionnisme
mais
incroyable.
C'est quelqu'un qui, de toute façon, on en parlera sans doute, avait beaucoup de difficultés avec la fougue, avec également les troupes beaucoup trop importantes. Alors certes, ça ne dérangeait pas du tout de pouvoir diriger des milliers de figurants pour Spartacus. Il aurait même fait la même chose pour son Napoléon. En revanche, quand il s'agit de prendre une décision, il s'entourait vraiment d'un aréopage. Il partait du principe que, de toute façon, sur un film, il pouvait, le cas échéant, tout faire lui-même. Il n'avait pas fait d'école de cinéma, mais en revanche, c'est quelqu'un qui était spécialiste de photographie. Il a commencé à vendre ses photos à Hook en 1945, et il considérait que pour faire un film, c'est pas la peine d'avoir des connaissances et des compétences spécifiques. Simplement, il disait, il faut s'y connaître en photographie. Si vous ne connaissez pas l'orthographie, ne faites pas de film.
Alors on va revenir un petit peu sur tout ça, Baptiste Roux. Comment vous êtes entré dans le cinéma de Kubrick? Vous en parlez un petit peu
mal.
dans
très,
votre
très
livre.
Très mal. Épouvantablement mal. Là, c'est vraiment très très personnel. Je devais avoir 12-13 ans. Et Kubrick, c'était vraiment une sorte de talisman. J'étais au collège, j'avais un petit cercle cinéphile, et c'était l'époque où on n'avait pas encore le droit de se coucher trop tard pour regarder la télévision. Et un soir, passait un 2000 ans d'Odyssée de l'espace sur un récepteur noir et blanc.
Oui, on perd déjà beaucoup de choses.
On perd énormément de choses. Petit récepteur, et je me suis lamentablement endormi. Au bout d'à peu près une demi-heure, 40 minutes, je n'y comprenais rien. Je trouvais l'image sans aucun intérêt. totalement raté mon entrée dans le cinéma de Kubrick. Et puis, moi, j'ai eu la chance, en 87, donc j'avais à l'époque 18 ans, de voir Full Metal Jacket, qui est sorti en septembre de cette année-là. Et là, c'était un foudroiement.
Bon, ça n'a rien à voir. Full Metal Jacket est quand même beaucoup plus facile pour un adolescent.
Oui, mais la différence, c'est que je voyais sur grand écran en couleur et non pas sur un récepteur dans les bras.
Je ne sais pas ce qui m'a amené à tourner aucun de mes films. En fait, quand j'ai lu le sujet ou l'histoire, je m'y suis intéressé. Maintenant que j'essaie de me demander quel prochain film je vais faire, je m'aperçois que mes processus de pensée, mes choix, sont durs à définir précisément. Quelle histoire prendre ? On peut définir les qualités requises. Une histoire intéressante, les personnages aussi.
It should offer possibilities for cinematic beauty in terms of photography and editing and visual.
Des possibilités de beauté photographique et de montage. Elle doit donner aux acteurs l'opportunité de montrer des émotions. Et elle doit être honnête par rapport au sujet qu'elle traite. Mais ces critères ne vous disent pas pourquoi vous avez choisi cette histoire précise. Finalement, c'est aussi indéfinissable que de tenter d'expliquer pourquoi on trouve une femme attirante ou pourquoi on a épousé telle autre.
La Compagnie des œuvres sur France Culture. Alors Kubrick aimait tout contrôler, on l'a dit, mais si on croit ce qu'il dit aussi dans cette archive, il ne contrôlait pas vraiment le choix de son sujet, c'est plutôt le sujet qui prenait le contrôle sur lui. Qu'en pensez-vous, Baptiste?
Alors, il faut savoir que, par exemple, Kubrick a été capable de retourner un projet pendant plus de 20 ans. Eyes Wide Shut est adapté d'une nouvelle, une novella de Schnitzler. Le film sort en 99. Il en a eu l'idée avant même de tourner Orange Mécanique en 1970. C'est-à-dire qu'il a épuisé un certain nombre de scénaristes pendant 25 ans à peu près, jusqu'à ce qu'il trouve le bon angle. Son Napoléon, il a aussi porté pendant à peu près 10 ans.
Mais sans succès.
Sans succès, effectivement. Le scénario existe. Mais même récemment, on a exhumé un autre scénario écrit par Kubrick, une adaptation de Brûlant secret de Zweig. C'est quelqu'un qui pouvait considérer qu'un sujet était pour lui et ensuite être capable de vraiment procéder à plusieurs moutures de scénario avant d'en être satisfait ou alors de le reléguer. Mais il est clair que, de toute façon, tous les sujets qui traitent à la fois de la volonté de puissance, qui traitent de la force du désir, et aussi de la faiblesse des systèmes complexes, et enfin de l'imaginaire, dès l'instant que vous avez une œuvre qui vient condenser ces quatre thématiques, on est à peu près sûr qu'elle peut constituer un matériau de choix pour Kubrick.
Est-ce que ce matériau est davantage européen qu'américain? Vous parlez de Schnitzler, par exemple. Est-ce que les romans qu'il a adaptés étaient davantage européens qu'américains?
Alors, ce qui est très intéressant quand on écoute Kubrick parler, c'est on identifie, mais en un instant, son accent new-yorkais, un peu traînant, nazia.
Du Bronx.
Alors, il était du Bronx. Je précise immédiatement, il est né dans le Bronx en 1928. Le Bronx en 28, c'est pas du tout celui qu'on connaît, celui qui a été ensuite popularisé dans les films de la Black Exploitation. Mais le Bronx, c'est, disons, une banlieue presque campagnarde. Kubrick dit qu'il y avait des fermes, Donc son père était médecin, c'était pas un quartier bon particulièrement résidentiel, mais c'était pas du tout non plus raison de l'endroit que c'est devenu. Donc Kubrick est 100% américain, ça s'entend à son accent. Il a vécu comme je l'ai dit, il a vécu en Grande-Bretagne, mais comme un américain, c'est-à-dire qu'il s'est pratiquement jamais mêlé à la vie anglaise. Il se faisait expédier des VHS de ses sitcoms et de ses talk-shows préférés. Donc de ce point de vue-là, son appartenance aux États-Unis, il faut aucun doute.
Alors pourquoi partir en Angleterre si tôt ?
J'y reviendrai après. Et en même temps, quand vous regardez effectivement ses œuvres, il est fasciné par tout ce qui concerne la mythologie européenne. Alors moi, je pense qu'il faut y voir aussi ses origines juives, puisque ses deux parents sont originaires de Galicie. Et donc aussi bien
donc à l'époque, aussi bien, dans l'Empire austro-hongrois.
Dans l'Empire austro-hongrois. Et c'est alors pourquoi partir tout simplement parce que Kubrick a très mal vécu l'expérience Spartacus. Donc, c'est-à-dire qu'en 1959, Kirk Douglas fait appel à lui pour remplacer Anthony Mann sur le plateau de Spartacus après une semaine, ce qui n'est pas du tout satisfait. On saura jamais vraiment pourquoi Anthony Mann a été débarqué. Enfin bon, peu importe. Et Kubrick s'est pas du tout adapté à la vie hollywoodienne. Le film a été très très bien reçu, ça a été un triomphe. Mais Kubrick n'était pas du tout quelqu'un de mondain, quelqu'un qui ne faisait absolument qui n'accorde aucune attention à sa manière de s'habiller. C'est quelqu'un qui ne fréquentait pas les réceptions, donc de toute façon, la vie hollywoodienne n'était pas pour lui. Il s'est rendu compte que tourner à New York ne lui permettait pas d'avoir les mêmes conditions optimales, en tout cas techniques, qu'il pouvait avoir à Hollywood. Et enfin, il est parti en Grande-Bretagne pour tourner Lolita, parce que les ligues de censure en tout, étaient moins strictes en 61-62 qu'elles ne l'étaient aux États-Unis à la fin des années 50 et début des années 60. Et il y est resté en s'installant systématiquement à proximité des grands studios, hein, aussi bien Pinewood que Boham. Mais encore une fois, quand il était en Grande-Bretagne, il n'avait pas du tout un mode de vie british.
Mais il y avait quand même beaucoup d'années entre chacun de ses films, entre chacun de ses 13 films pour 50 ans de carrière. On peut imaginer qu'il aurait pu retourner vivre... je sais pas, pendant 2 ans, 3 ans, même 4 ans à New York et retourner ensuite en Angleterre pour tourner ses films.
Alors, il a conservé son appartement de Central Park jusqu'en 66-67. Il y a peut-être encore lorsqu'est sorti 2001, Odyssée de l'espace. Mais ce qui intéressait Kubrick, de toute façon, c'était la conception des films, l'écriture des films, le tournage. Et à partir du moment où il avait trouvé la maison qui lui convenait, il a séjourné à Botsmed pendant 14 ans, de 65 à 79, puis ensuite au manoir de Chewick Berry de 79 à sa mort. S'il avait ses sacs de montage, s'il avait des pièces qui étaient dévolues au rangement de ses archives, s'il pouvait faire venir à lui les scénaristes, les comédiens, il est extrêmement satisfait. Donc, en tant que New-Yorkais, c'était davantage l'atmosphère et puis surtout la télévision new-yorkaise qui lui manquait. Mais c'était quelqu'un qui vivait pour, par son œuvre, quelqu'un qui dormait très peu, Kubrick. Hein. Donc, 20 heures par jour étaient consacrées à la création. Et j'ai envie de dire que, de toute façon, quelque chose l'endroit où il se trouvait, vraiment ce qui importait pour lui, c'était de pouvoir écrire, travailler, et puis également ses collaborateurs, mais je pense qu'on y reviendra.
C'est quelqu'un qui aurait été heureux avec Internet, avec la fibre optique, avec les satellites, il aurait été tout à fait dans son élément, caché comme ça dans son château anglais, mais avec la possibilité d'atteindre à tout moment tous les points du globe.
Vous ne croyez pas si bien dire, je crois qu'en Grande-Bretagne, c'est le premier à avoir eu un fax en 72. C'est quelqu'un qui passait aussi des heures et des heures en conversation au téléphone. Il était capable d'appeler Spielberg, par exemple, pendant 4 heures, 5 heures de rang. Je crois qu'il n'a jamais rencontré physiquement Spielberg. Celui-ci lui dit, mais je peux passer de voir. Il dit, non, on a une très très bonne relation amicale par téléphone. Pourquoi désirerais-tu la changer ?
On va écouter justement un témoignage de sa femme à propos de sa relation avec le téléphone.
J'étais sidérée par son culot. Il téléphonait à n'importe qui, à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit. Il passait sa vie au téléphone. Dès qu'il pensait à quelqu'un pour une question technique ou artistique, il l'appelait aussitôt. Et il avait un énorme carnet d'adresses. Il gardait tout.
And he phoned embassies when somebody was run over in Greece and, you know, not finding a hospital. And he loved the emergency.
Et il aimait cette urgence.
And he put himself on the phone and said, I'll get through, you know, I'll do that. And when he was young, nobody
Quand il était jeune,
Kubrick, he didn't care.
Personne au bout du fil ne le connaissait.
Why he called and apologized, he was very polite, but not let go. And so
Mais
when he was,
quand il est devenu
well
plus connu, se présenter comme Stanley Kubrick devenait un problème. Ses interlocuteurs croyaient à une blague. Les gens admirent quelqu'un qui va au-delà de ses limites et qui fait son maximum. Et puis, ils se disent qu'elle est aussi loin cache peut-être quelque chose. Ils cherchent ce qui ne va pas. Les gens pensent souvent que les grands créatifs sont aliénés. C'est plus vendeur de dire que Monsieur Kubrick est complètement fou. Pourtant, Monsieur Kubrick était normal.
Alors Baptiste Roux, un homme tout à fait normal, Stanley Kubrick, comme le disait sa femme Christiane.
Et en fait, après sa mort, un certain nombre de membres de sa famille sont montés au créneau pour venir démythifier, voire démystifier l'image avec laquelle il avait joué, en fait. C'est-à-dire un homme qui était totalement fermé derrière les hautes grilles de son manoir, quelqu'un qui donnait l'ordre à son chauffeur de ne jamais dépasser les 35 km/h, quelqu'un qui ne prenait jamais l'avion. Il avait le sens de la famille, ça c'est ce que disent ses deux filles et puis sa fille adoptive, c'est-à-dire celle d'un premier lit de son épouse. Il était très prévenant à l'égard de ses collaborateurs comme Emilio D'Assandro, son chauffeur également.
Un ancien chauffeur de course, c'est ça?
Un ancien pilote de Formule 1 qui a usé à force de faire des allers-retours au moment du montage de Shining entre sa maison et les studios. Bon, de toute façon, quand on travaillait pour Kubrick, c'était de toute façon une dévotion absolue.
Donc il n'était pas tout à fait normal, entre guillemets.
C'était un grand obsessionnel, mais j'ai envie de dire que de toute façon, comme tous les génies, c'est-à-dire qu'il y a une grande singularité, on ne peut pas demander à quelqu'un, un génie du cinéma, de se comporter effectivement de manière totalement ordinaire et coutumière. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'on ne s'implique pas à 100% dans une œuvre. C'est d'ailleurs une des citations que j'ai fait figurer sur la première couverture de mon livre. Sont toutes celles que je préfère. Hein. C'est-à-dire, vous êtes libre de vous engager ou pas, mais si vous le faites, allez jusqu'au bout. Donc pour Kubrick, confus scénariste, comédien, on devait de toute façon se vouer corps et âme à son projet. Après ça, ses filles racontent que sur 2001, à un moment, elles ont eu besoin de lui. Et en même temps, là, il faut que l'on parle papa, et il a interrompu son activité de montage. Donc, sa priorité, c'était la famille. C'était vraiment sa famille et ses très proches. Il aimait bien recevoir des prix Nobel, notamment de scientifiques. Il était passionné par la physique, comme je vous l'ai dit. Il fréquentait très, très, très peu le milieu du cinéma. Et il s'amusait beaucoup de la légende qui courait à son propos. Bon, après ça, vous avez un certain nombre de ses comédiens, notamment Malcolm McDowell, qui raconte le tournage de Orange Mécanique, qui a été particulièrement épique. Et puis, on va dire que Kubrick, c'est un peu comme un trou noir. C'est-à-dire qu'un trou noir, on n'y meurt pas forcément, personne ne sait ce qui se passe dans un trou noir, mais c'est quelqu'un qui aspire l'énergie des autres. Et tous les comédiens, tous ses collaborateurs qui se sont vraiment impliqués, qui ont suivi son mot pour lui, après ça, auraient souhaité poursuivre la relation, mais lui était passé au projet suivant et il a fait retirer de ses collaborateurs tout ce qu'il avait à en prendre.
Alors il y a quand même un certain nombre de petits détails qui sonnent comme ça, un peu comme des clichés, mais on va essayer de voir avec vous, Baptiste Roux, en quoi ils peuvent être signifiants quand même pour comprendre Stanley Kubrick et son cinéma. Alors, par exemple, il stocke ses denrées dans 3 congélateurs qu'il a fait reconvertir, paraît-il, en sarcophage d'hibernation pour 2001, Odyssée de l'espace. Mmh. Il y a une paranoïa ici, il y a une peur qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de ses films. Hein, Docteur Folamour, par exemple, c'est la peur de la bombe. Mais alors, ce côté « je stocke si jamais il se passe une troisième guerre mondiale », qu'est-ce que ça nous dit du personnage?
Moi, je n'irais pas, je prendrais pas exactement sous cet angle-là. C'est quelqu'un qui conservait tout.
C'est
un archivage. Il avait pris 17, il y a 17 000, je crois, documents préparatoires sur son Napoléon. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'en 70-71, il était capable de dire tout ce qu'avait fait Napoléon de l'école de Brienne jusqu'à Waterloo, voire jusqu'à Sainte-Hélène. Donc il y avait plusieurs pièces, pour ne pas dire une dizaine de pièces de son manoir, qu'on comportait tout de même un très grand nombre, il y a au moins 10 sacs de réception qui étaient consacrés à l'archivage. C'est l'un des premiers à s'être muni de cartes perforées IBM 68-69 pour justement conserver tous ces documents. Donc c'est moins l'idée d'avoir à affronter un siège et à conserver et à stocker que surtout ne perdre aucune trace.
Bon, mais alors, quand il se balade armé, vous n'allez pas me dire que c'est à cause de l'archivage quand même.
Alors ça fait partie des mythes, ça n'a jamais été confirmé. Si vous allez sur Internet, je pense que il y a très très peu de cinéastes qui ont suscité autant de théories conspirationnistes, complotistes.
Lui n'était pas conspirationniste, pas complotiste.
Je ne pense pas qu'on puisse l'affirmer. En revanche, il a très très mal vécu le fait que sa fille, entre guillemets préférée, Viviane, rejoigne l'église de Scientologie en 1997. Là, ça a été un véritable effondrement. Lui, qui n'était pas du tout un homme de lettres, a écrit une missive de 40 pages. Je dis bien 40 pages pour exhorter, pour supplier sa fille de revenir parce qu'elle avait quitté la maison pour aller donc vivre aux États-Unis et il en a été profondément affecté. Et c'est ce que montre très très bien Laurent Vachaud dans un de ses articles de positif sur la question, c'est qu'on peut pas comprendre Eyes Wide Shut sans cet arrière-plan à la fois d'abandon, sans l'idée, cette fascination pour tout ce qui est société secrète, conspiration, qui est largement moins accentuée dans la nouvelle de Schnitzler.
Donc c'est un petit peu la scientologie, finalement, ce cercle dans Eyes Wide Shut des puissants qui se retrouvent dans des châteaux pour y faire des choses.
Écoutez,
que la morale réprouve.
Pendant les vacances en songeant à l'émission, mais je pense qu'avec Epstein, on n'en est pas très très loin. C'est exactement le type de soirée, le même type de consommation de mannequins et d'escort girls qui est évoqué dans Eyes Wide Shut, dans la maison de où a lieu l'orgie. Hein.
Alors on parlera d'Eyes Wide Shut surtout jeudi prochain. Il vivait comme un asset, Stanley Kubrick. Il paraît, alors là aussi vous allez nous dire si c'est de la légende ou pas, qu'il faisait toujours le même repas, steak, haricots verts. Il donnait aussi la même chose à ses chiens.
Oui, sachant qu'il était même capable de commencer par le dessert, considérant que de toute façon, à la base, tout se trouvait mélangé dans l'estomac. Donc il n'y avait absolument aucune raison d'avoir un
efficacité
ordre
précis. L'efficacité avant tout. Et pourtant, c'est un esthète, donc ça devrait être un gastronome aussi.
Pas du tout. Il aimait la très bonne viande, mais steak à haricots verts, ça lui convenait. De toute façon, il y avait, pour surtout ne pas être dérangé dans son œuvre de création par des considérations prosaïques.
Alors du coup, on est censé faire aujourd'hui avec vous, Baptiste Roux, une biographie de Stanley Kubrick, et puis on dévie évidemment sur les manies, et puis on dévie déjà sur l'œuvre. Est-ce que la vie de Stanley Kubrick, ça n'est pas justement raconter ses manies et raconter son œuvre ?
J'ai envie de dire que c'est avant tout une existence, comme je vous disais, 20 heures sur 24, consacrée à l'écriture, consacrée aussi à des expérimentations techniques en matière de micro. Les ingénieurs du son considéraient qu'ils en savaient toujours davantage qu'eux sur les dernières installations et perfectionnements. De toute façon, sur un plateau, on disait « Kubrick knows ». Voilà. Donc il s'y connaissait en tout, donc quand je parle de création c'est pas uniquement un travail d'écriture et de recherche, c'est-à-dire tout ce qui permet de pouvoir sur chaque film tester les nouvelles techniques. Donc son existence à partir de 64 64-68. Pourquoi 64 ?
Parce qu'il est né en 28.
Il est né en 28. En 64, il passe ses dernières vacances, entre guillemets, avec sa femme. Il visite toutes les plages du débarquement. J'ai bien dit toutes les plages du débarquement. C'est-à-dire après Folamour et avant de commencer à travailler sur 2001. Et ensuite, il va effectuer son dernier voyage à bord du Queen Mary pour terminer de monter 2001 Odyssée de l'espace au mois de mars, sachant qu'avant-première du film a eu lieu le 2 avril 1968. Il revient ensuite en Grande-Bretagne, qu'il ne quittera plus jamais. Il ne se rendait à Londres que de manière exceptionnelle. Donc ensuite, comme je disais, il a vécu pendant une quinzaine d'années à Boatsmead, ensuite pendant 20 ans à Tewkesbury. Il éprouvait qu'il n'y avait aucune raison de sortir de chez lui, si ce n'est pour aller au studio. Donc sa vie, c'est celle d'un créateur qui est totalement focalisé sur son œuvre. Et puis quand il y a des extérieurs, il envoie tout simplement Andrew Birkin, qui était son assistant de réalisation, et ce n'est pas lui qui s'en occupe.
Des œuvres que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de Stanley Kubrick et nous racontons sa vie avec vous, Baptiste Roux. On va reprendre justement les choses un petit peu dans l'ordre et revenir sur l'enfance de Stanley Kubrick et peut-être sur ses origines juives que vous avez déjà évoquées, mais cette fois pour essayer de voir dans quelle mesure ça a pu avoir une influence sur lui. Peut-être que la première chose à dire, c'est que certes, c'est une famille juive, des émigrés du début du XXe siècle, 1902, c'est l'arrivée, je crois, de son père aux États-Unis. Le jeune Stanley Kubrick, il ne va pas, par exemple, faire sa bar mitzvah. Donc ce sont des juifs, mais des juifs qui ne pratiquent pas, Baptiste Roux.
Alors c'est un rapport extrêmement complexe avec la religion juive. C'est-à-dire qu'il est juif culturel, son environnement est juif, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour la religion, mais c'est davantage la transcendance qui l'intéresse, comme on voit avec 2001, que la religion proprement dite. Et ensuite, il sera fasciné par le Troisième Reich. On lui avait proposé, il avait failli accepter de tourner un biopic sur Albert Speer. Mm-hmm. Et finalement, il se dédiera, considérant que de toute façon, en tant que juif, donc non pas pratiquant, mais juif de culture, il ne peut de toute façon décemment se consacrer à une œuvre de ce type. Donc il y a vraiment une ambivalence entre les racines juives et en même temps l'idée de ne pas porter sa judéité en bannière. Par exemple, dans la nouvelle de Schnitzler, Traum Novella, la judéité du personnage est beaucoup, beaucoup plus à accentuer. Et d'emblée avec Frédéric Raphaël, de juif également, quand il rencontre fin 94 début 95, il déclare tout go à son co-scénariste que il est hors de question que Fridolin, qui va devenir Bill Herford, soit d'origine juive. Je cite, pour ne pas ennuyer les spectateurs avec cela. Et en même temps, j'ai envie de dire que la judéité de Kubrick, elle transparaît. C'est l'exemple que je donne en cours à mes étudiants assez régulièrement. Dans 2001, Odyssée de l'espace, quand il s'agit de vouloir prendre en photo le monolithe pour sa deuxième apparition, à ce moment-là, il y a un champ magnétique qui interdit de prendre toute photographie. Donc si on part du principe que le monolithe, c'est la représentation, si ce n'est de Dieu, à tout le moins de la transcendance, ça veut dire que le visage de Dieu ne se représente pas, ne se laisse pas photographier, donc il y a aussi un interdit de la représentation, et en même temps une judéité qui, encore une fois, n'est pas du tout revendiquée. Donc il y a un rapport qui est quand même assez complexe.
Est-ce qu'elle ne sera pas le plus revendiqué, tout en ne l'étant jamais vraiment, dans les années 70. Je crois qu'il y avait eu un projet, justement, de travailler avec Isaac Singer sur...
76.
Sur des artistes israélites dans la période de l'Europe occupée.
Oui, et le projet, il souhaitait faire un film sur cette période-là, c'est-à-dire sur tous les immigrés. Bon, là, je ne sais pas pour quelle raison le film ne sera pas conduit à son terme. Je pense que Singer était peut-être pas totalement enthousiaste à l'idée de travailler pour le cinéma. Et puis bon, il a préféré travailler sur Shining. Mais enfin bon, j'insiste aussi, je l'ai pas mentionné, sur un projet qu'il a très longuement mûri, qui était qui est le film Aryan Papers, qui a même dépassé le stade de la pré-production. C'est un film adapté d'un roman de Bayle, justement sur la fuite d'un jeune juif dans la Pologne occupée avec sa tante. Et je crois que le film devait débuter incessamment et Kubrick a arrêté, a stoppé net le tournage parce qu'il avait appris le début du dit tournage, cette fois-ci, de la liste de Schindler. Et il avait tant souffert de la comparaison avec Platoon, qui s'était fait beaucoup plus rapidement que Full Metal Jacket, qu'il a préféré arrêter le film. Donc, il se serait appris une éducation européenne, ou Aryan Papers, et le film ne s'est pas, tourné.
D'ailleurs, un petit détour, Spielberg, Kubrick, c'est un sujet de rivalité, enfin, il y a une rivalité entre ces deux réalisateurs.
Je ne pense pas. D'une part, comme je vous l'ai dit, ils avaient une liaison amicale, et puis c'est Spielberg qui porte à l'écran Artificial Intelligence, AI.
Donc un projet de Kubrick.
Projet de Kubrick. Il y avait, là, pour le coup, il n'y avait pas de scénario, il y avait eu un certain nombre d'ébauches avec des écrivains de science-fiction, Brian Aldiss et Ian Watson. Et le film a été réalisé par Spielberg. Je pense que Kubrick n'aurait pas été enchanté du résultat. Enfin, non, je ne pense pas du tout qu'il y avait de rivalité. Il n'y avait pas de rivalité. Il y avait beaucoup de respect, beaucoup de considération mutuelle. Mais en même temps, Spielberg était beaucoup plus rapide que Kubrick. Donc, il aurait mis 2 ans pour pouvoir finaliser le tournage et le montage d'une éducation européenne. Et donc, il savait très bien que le film aurait pâti de la comparaison.
Alors, vous l'avez raconté tout à l'heure, Kubrick était un mauvais élève. Il désespérait ses professeurs jusqu'à ce qu'on découvre qu'il avait un QI au-delà de la moyenne. Donc là, les parents de Kubrick se disent, on va l'envoyer sur la côte ouest, à Pasadena, à côté de Los Angeles, où là, visiblement, même si les écoles sont plus libérales, ça se passe exactement de la même manière. Et c'est là où son père a une idée absolument déterminante. Il va lui offrir un appareil photo.
J'ai commencé à jouer aux échecs à 12 ans, mais j'y ai joué plus sérieusement à 17, quand j'ai intégré le Marshall Chess Club entre la 5e et la 6e avenue. À la même période, ce qui m'a permis de surmonter la peine d'être un mauvais élève, c'est la pratique de la photo. Quand vous vous engagez dans un domaine qui nécessite de résoudre des problèmes en profondeur, cela vous aide ensuite à résoudre les problèmes dans n'importe quel autre domaine. Alors j'ai acheté une caméra, appris à développer la pellicule, à construire ma propre chambre noire, à apprendre la technique.
Stanley Kubrick dans un enregistrement de 1966 avec une traduction d'Alexandre Vuillaume-Tilski. Alors ces deux loisirs, Baptiste Roux, les échecs, la photographie, c'est vraiment ce qui va éveiller son cerveau et ce qui va l'éveiller, j'ai envie de dire, pour toujours.
Il était capable de disputer 8 parties d'échecs en même temps. Alors lui-même ne se considérait pas comme un excellent joueur. Je pense qu'il y a très très peu de personnes, sauf peut-être Peter Sellers, qui peuvent se vanter de l'avoir déjà battu. Pour ce qui concerne l'appareil photo, il va très très sérieusement s'y mettre à partir des années 40 et offrir son premier cliché, en tout cas professionnelle pour le magazine Look en 1945.
C'était vraiment le plus jeune des contributeurs à ce grand magazine. Il y avait deux grands magazines où il y avait beaucoup de photos aux États-Unis. C'était Life et Look. Et il arrivait quand même très très jeune à en faire partie.
Et surtout, quand vous regardez, la quasi-totalité des photos se trouve maintenant dans un certain nombre d'ouvrages chez ta chaîne. Et c'est quelqu'un qui était capable de maîtriser à peu près tous les styles, c'est-à-dire aussi bien l'expressionnisme, de jouer sur la série. Il y a énormément d'humour et parfois une sorte de tragique de la vie quotidienne dans ses photographies. Et il fera d'ailleurs d'un des sujets, c'est-à-dire une journée dans la vie d'un boxeur, ça s'appelle Day of the Fight, et il en fera son premier court-métrage.
C'est comme ça qu'il passe au cinéma.
Qu'il passe au cinéma. Et à l'époque, il a 20 ans. Et vous regardez ce court-métrage, il est d'un professionnalisme confondant. Absolument confondant. Donc déjà en 48, il maîtrise le cadre, la lumière, l'exposition. On va dire qu'à ce moment-là, il n'y a pratiquement plus grand-chose à apprendre, si ce n'est en matière, effectivement, d'écriture scénaristique. Et pour cela, donc, il aura toujours le réflexe de demander à un écrivain, un spécialiste du thème évoqué, de pouvoir le seconder. Mais c'est vertigineux de constater comment, en quelques années, il a pu, à force de travail, d'obstination, de caractère obsessionnel, de pouvoir pleinement s'approprier le langage photographique.
Alors, il aurait pu devenir un photographe. D'ailleurs, il y a des gens qu'il fréquente à cette époque-là qui vont devenir les photographes célèbres des États-Unis, Diane Arbus par exemple, mais aussi Vinogrand. Lui fait le choix de l'image animée. Est-ce qu'on arrive à saisir ce qui se passe à ce moment-là?
C'est très simple, Kubrick voulait raconter des histoires. C'est-à-dire que à partir de 50-51, il part du principe qu'il a fait le tour de la question, qu'il maîtrise vraiment l'art de la photographie, et que ce qu'il veut maintenant, c'est pouvoir raconter une histoire à un public, et il commence à démultiplier les scénarios. Et donc c'est grâce justement à son oncle de Pasadena qu'il réunit les financements, je crois 20 000 ou 25 000 dollars, pour tourner Fear and Desire, qui est un film qui a été invisible pendant des décennies, qui est ressorti en 2012 ou 2013, que Kubrick trouvait épouvantablement raté, encombré de symboles pesants. Bah, je trouve qu'il ne mérite pas particulièrement cette opprobre. Mais il y a vraiment cette volonté déjà, dès ce premier film, qui est vraiment caractéristique de la volonté de Kubrick qu'il a toujours eue, c'est-à-dire de faire entrer le monde entier dans un film.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi à ce moment-là l'influence de quelqu'un dont il faut citer le nom? C'est son producteur, James Harris, avec qui il va monter une société de production. Quelle est son importance?
Harris, c'est un tout petit peu après Harris. Il tourne donc Fear and Desire en 50, que le film sort en 51. Kubrick dira toujours qu'il a remboursé chacun de ses collaborateurs au centime près. Puis il tourne Kieslowski, c'est il rencontre Harris vers 55.
Et donc c'est avec lui qu'il fait quand même son premier grand film hollywoodien.
L'ultime razzia, absolument. Puis Les Sentiers de la Gloire. Alors, Harris va canaliser Kubrick, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de tout ce qui concerne les relations publiques, mettre donc en rapport avec un certain nombre de créateurs. Kubrick a travaillé au scénario de La Vengeance aux deux visages pendant au moins 6 mois. Et surtout, il aide vraiment à accoucher de ces scénarios et permettre justement de passer un professionnalisme encore accru. Le dernier film ensemble qu'ils feront, c'est Lolita, avant de se séparer vraiment à l'amiable, parce que Harris avait envie de voler de ses propres ailes, que Kubrick voulait travailler sur Docteur Folamour, que James Harris n'appréciait pas particulièrement. Mais fort de ce compagnonnage, il va effectivement passer peut-être à une autre dimension de son médium.
Pour reparler la manière dont Kubrick produisait ses films, je propose d'écouter un témoignage assez formidable, me semble-t-il, et très révélateur. C'est celui de Bertrand Tavernier, alors qui a travaillé pour lui, comme il l'explique, mais c'est bien des années plus tard.
J'étais très souvent en rapport avec lui, il me demandait de faire les versions françaises de ses films, et je l'ai connu quand j'étais attaché de presse. J'ai été chez lui dans sa maison de Boreham Wood.
Alors vous êtes un des rares à avoir pu pénétrer à l'intérieur de la maison?
Oui, parce que j'étais attaché de presse d'Orange Mécanique, et que voilà, j'étais avec un Allemand, et on est rentré dans cette maison où il y avait No Trespassing partout, Do Not Enter.
En français, dites-le.
N'entrez pas, attention, ne touchez pas à cette porte, ne mettez pas la main sur cette poignée, attention aux chiens. Oui, c'était absolument terrible. On se demande comment la mort a pu pénétrer à l'intérieur. C'est vraiment tellement...
Mais il était phobique, il était...
Oui, mais tout ça de manière très très douce. Il avait des manies incroyables. Par exemple, on est allé déjeuner après une longue séance de travail où je me suis aperçu qu'il connaissait les résultats de tous les cinémas d'Allemagne et de France où allait sortir Orange Mécanique. Il connaissait tous leurs résultats et leurs chiffres d'affaires depuis 3 ans. Il avait tout ça, et donc il demandait au type à Stuttgart pourquoi je sors dans un cinéma où Mash n'a fait que ça.
Hein? Et il paraît que son souci de la perfection était extraordinaire, jusque y compris dans ce que vous évoquez, oui. À savoir la situation des cinémas de quartier, l'affiche à Paris sur le même
cadre. La qualité de la projection, il se faisait envoyer même les coupures qui paraissaient dans l'Indépendant de Perpignan ou le Petit Bleu de la Genève. Il voulait avoir un pavé presse, il en voulait avoir la preuve. D'abord, il vérifiait si l'argent était sale. Oui, oui. Oui, oui, mais en même temps, cette exigence, bien sûr, était au tournage, ça continuait. Pour tourner les premiers plans de 2001, il n'y avait aucun studio de la MGM à Londres qui était assez grand. Donc il a fait casser les murs des studios pour les réunir. Et puis après, il a décidé que c'était mieux en extérieur.
D'un côté Fellini aussi, ils avaient beaucoup de points communs avec Fellini.
Oui, moi je trouve qu'il en a fait voir de toutes les couleurs au patron des studios, et il venge un peu tous les cinéastes qui ont été humiliés, démolis. Il y a une manière, parce que tout le monde tremblait devant lui. Et il faisait marner toute l'équipe de la Warner, tous les gens de la Warner. Moi, à Montreux, quand j'avais présenté Au temps de minuit, j'étais tombé sur un Allemand, le représentant de la Warner en Allemagne, qui était dans un état épouvantable parce qu'il avait fait passer 3 tanks de l'OTAN à Kubrick pour Full Metal Jacket, et Kubrick les avait pas renvoyés. Donc le type avait l'OTAN sur le dos, qui lui disait « Donnez-moi, rendez-moi mes tanks, ça fait 3 ans qu'ils sont partis, mes tanks. »
Et qu'est-ce qu'il en a fait?
Ah, je ne sais pas comment, mais c'était formidable de voir, dans une réunion sur le cinéma, de voir tout d'un coup l'apparition des tanks de l'OTAN. Et c'était comme ça tout le temps.
Compagnie des œuvres. Vous connaissiez cette anecdote?
Pas du tout. Ah, pas du tout. Je suis absolument enchanté d'écouter
les tanks de l'OTAN. C'était pas encore dans la mythologie très célèbre.
Non. Enfin, en tout cas, si, peut-être. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais effectivement, ça m'étonne pas du tout de la part de Kubrick. Frédéric Raphaël raconte scénariste d'As Watch Out, que lorsqu'il entre dans le bureau de Kubrick, celui-ci est absolument catastrophé parce que parmi les copies de Lolita qui circulent dans le monde, il s'est aperçu qu'il manquait une bobine qui avait été signalée dans un cinéma des Philippines, et il est absolument bouleversé, comme si ça avait changé la face du monde, parce qu'il manquera 10 minutes dans une des copies en exploitation dans le monde entier, une bobine de son film, assez savoureux.
Donc c'est quand même quelqu'un qui vit essentiellement dans sa tête.
C'est un grand obsessionnel, oui.
Et son cinéma, c'est la projection sur un écran de ce qui se passe dans son cerveau. Est-ce que le cinéma de Kubrick, c'est montrer un cerveau qui réfléchit en action?
Oui, absolument. Je pense que, alors, il y a un côté un peu repoussoir, attraction, répulsion, mais le personnage de Torrance dans Shining est quand même particulièrement emblématique de la relation que Kubrick entretenait avec la folie. Il n'y a pas un de ses films où ce soit pas question ou de maladie mentale ou d'aliénation ou de paranoïa. C'est la grande hantise disent c'est celle de la page blanche, c'est celle de l'absence de créativité. Et c'est quelqu'un qui est en même temps à la fois très cérébral, oui, c'est quelqu'un qui veut effectivement tout contrôler. Enfin, c'est une anecdote que je raconte dans mon ouvrage, mais alors que Yann Arlan, son producteur exécutif, se trouvait en 75 pour présenter Barry Lyndon en Auvergne, il égare ses clés. Kubrick lui fait apporter par hélicoptère. Pourquoi ? Parce que il avait conservé dans un dossier le numéro de châssis de sa voiture. Donc il y a cette idée, effectivement, peut-être pas paranoïaque, mais en tout cas, de vérifier et de contrôler. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est extrêmement attentif aux relations humaines. Mm-hmm. Il avait dit à James B. Harris, quand celui-ci, dans les années 80, voyait sa carrière marquée, pas les hommes, mais travaille sur les relations entre les hommes et les femmes, c'est sujet universel, et ça, ça marche toujours. Et quand vous regardez, c'est notamment dans Lolita, sur les tourments de l'homme de 40 ou 50 ans qui est enfin repris par le démon de minuit et qui éprouve le tragique de son existence, là, on n'est pas du tout dans une approche purement cérébrale ou abstraite. C'est quelqu'un qui a effectivement souffert, c'est quelqu'un qui est capable de projection par l'imagination. Donc c'est aussi un réalisateur de chair. C'est pour ça que faut aussi casser un peu l'image d'un Kubrick qui serait l'équivalent humain de Hal dans 2001 Odyssée de l'espace. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment une alliance entre à la fois une volonté effectivement mécanique et technique de pouvoir maîtriser et en même temps de laisser advenir les accidents du réel.
Mais alors, est-ce que vous diriez que c'est un cinéma dont l'histoire c'est le parcours d'une pensée, d'une réflexion ?
Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'il a consacré, par intermittence, le quart de sa carrière, donc à porter la nouvelle de Schnitzler. Donc, il considère qu'il en était incapable en 71 et que, à presque 70 ans, enfin 68 ans, quand il commence à retravailler, il a acquis peut-être pas la maturité, mais en tout cas la connaissance de l'être pour justement donner chair au personnage d'Harford, de sa femme. Et son dernier film est celui dans lequel la technique n'intervient pratiquement pas. Et c'est un film uniquement sur les relations à la fois homme-femme et surtout ce qui se passe dans l'imaginaire d'un être.
Alors vous avez une expression qui est assez signifiante, je trouve, pour qualifier Kubrick. Vous dites c'est l'homme sans. C'est l'intellectuel sans idéologie, c'est le penseur sans doctrine, c'est le metteur en scène qui prend acte du monde comme il advient, sans catéchisme politique.
Oui, ce qui est vrai. C'est très très déroutant. Je pense que on peinerait beaucoup à essayer d'identifier les convictions de Kubrick. C'est-à-dire que quand vous regardez ses œuvres, certaines sont délibérément antimilitaristes. Prenez Les Sentiers de la Gloire, et en même temps, c'est quelqu'un qui est fasciné par la guerre. C'est une thématique également qui est absolument fondamentale dans ses œuvres. Hein. C'est, sur les 13 films, il y en a 3 au moins qui relèvent du film de guerre. C'est quelqu'un qui croit à l'individu, mais ce n'est pas non plus un libertarien.
C'est un conservateur, peut-être ?
Alors, peut-être qu'à la fin de sa vie, il était davantage qu'au début. C'est quelqu'un qui part du principe que l'être humain est beaucoup trop complexe, premièrement, pour être apporté à une idéologie, premièrement, et d'autre part que, de toute façon, les fluctuations sont telles, les intermittences de sa pensée sont telles que, de toute façon, il ne peut jamais être formaté autour d'une conviction politique ou idéologique. Il était peut-être un peu plus conservateur dans les années 90 qu'au début de sa carrière, mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, se méfiait énormément de tout ce qui était idéologique. On voit très bien dans Orange Mécanique, par exemple.
Mmh. Est-ce qu'on peut le qualifier d'élitiste ou pas ? Parce qu'il arrive quand même à faire des films extrêmement grand public, des succès incroyables, avec une exigence folle. On pense à 2001, Odyssée de l'espace, qui ne se visionne pas, vous l'avez dit au début de l'émission, on peut s'endormir quand on a 13 ans sur un petit écran en noir et blanc devant 2001, Odyssée de l'espace. Donc à la fois un cinéma d'auteur très élitiste, enfin, je vous demande si on peut le dire selon vous, et le grand succès.
Alors, une petite anecdote, hein, c'est-à-dire que Kubrick était un homme qui était particulièrement méticuleux et quasi paranoïaque, mais il avait toujours un exemplaire du scénario pour le concierge du studio, disant Et si jamais il avait une idée, je la prendrais avec grand plaisir. Donc, élitiste, non. Je pense que
non, mais il se nourrit des autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas élitiste.
Oui, mais en partant du principe, de toute façon, puisque ce sont des créateurs, chacun à sa manière, ils sont non pas à son service, mais au service du film. Je pense que dans l'histoire du cinéma, c'est rare de trouver quelqu'un qui soit soucieux d'allier à la fois un perfectionnisme technique, des préoccupations philosophiques et en même temps un souci du public, comme faisait entendre l'archive. Il voulait que le film fût vu dans les meilleures conditions.
Merci beaucoup, Baptiste Roux, d'être venu nous parler aujourd'hui de la vie et de la personnalité de Stanley Kubrick. Pour aller plus loin, je renvoie à votre livre Stanley Kubrick, Au-delà de l'image, aux éditions Transboréal. Je le recommande à tous nos auditeurs très chaleureusement. Tout de suite, la chronique du jour, elle nous est présentée par Anne-Sophie Rouvelot.
France Culture, la Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Anne-Sophie Rouvelot de la revue Page des Libraires, bonjour à vous Anne-Sophie.
Bonjour Mathieu.
Les vacances ont été bonnes?
Oui, très bien, j'espère que vous aussi.
Très bonnes. Vous avez trouvé le temps d'interviewer, peut-être durant vos vacances, peut-être pas, Philippe Aya, auteur du livre « Où bat le cœur du monde » qui paraît en cette rentrée chez Calman Lévy. Dites-nous-en un peu plus.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un grand roman populaire au sens noble du terme où on découvre Darius, qui est un enfant qui est né à Tunis dans les années 30 et qui va devenir le grand Dari Kitzak, un jazzman de renommée mondiale. Sachant que c'est un personnage fictif, parce qu'il est si bien dépeint que je me suis posé la question dans l'ouvrage. Donc, avant de connaître le succès, Darius, il doit surmonter un deuil. C'est l'assassinat de son père à Tunis. Et du coup, ce deuil, en fait, va lui enlever sa voix à Darius. Et c'est là qu'il va découvrir la musique, la clarinette plus précisément. Et donc, la clarinette devient sa raison de vivre, sa manière de s'exprimer aussi. Et à ce moment-là, on voit qu'on est vraiment dans une sorte de roman d'apprentissage. Ce qui est génial aussi, c'est que c'est un roman d'aventure, parce qu'on va être aussi un moment à New York, sous la neige, dans les années 40. Donc ça, c'est génial. On traverse aussi les États ségrégationnistes du sud des États-Unis en compagnie de Charlie Parker et de Billie Holiday. Donc vous voyez quand même, ça vaut le détour. Donc c'est vraiment un roman qui est très divertissant, qui est riche en émotions, qui est à conseiller aux fans de jazz, mais aussi à tous ceux qui cherchent vraiment une grande fresque romanesque. C'est un très grand roman.
Alors il y a un autre roman de la rentrée que vous avez lu, que vous avez aimé, c'est Eldorado de Pierre Démé. C'est aux éditions Fayard.
Ouais, tout à fait. Alors je suis un petit peu embêtée pour celui-là parce qu'il faut en dire le moins possible, mais sachez que c'est vraiment celui qui m'a le plus bouleversé.
Juste nécessaire. Alors...
Ouais, c'est vraiment celui qui m'a le plus bouleversé toute la rentrée littéraire. C'est un court roman vraiment... Allez-y, Franco. Pour vous le faire très rapidement, on est avec Catherine qui vient de débarquer du coup sur une île au large de l'Italie. C'est un endroit qui est chargé en émotions pour elle parce que 30 ans avant, elle s'est mariée avec Christian qu'elle attend. Et donc, en l'attendant, elle va observer le monde. Sauf que nous, en tant que lecteurs, on se rend compte qu'il y a un petit malaise parce que la manière dont elle regarde le monde, tout est extrêmement froid. Elle ne voit que des corps à la chair flasque. Enfin, c'est très, très dérangeant. Et il y a aussi ces fantasmes qui se font de plus en plus morbides. Et je vais m'arrêter là. Juste pour vous dire que c'est un roman psychologique qui est maîtrisé, mais parfaitement, qui est glaçant. C'est un voyage à l'aveugle, en compagnie d'une femme que je qualifierais de désaccordée.
Voilà. Et pour terminer, un livre qui nous vient des États-Unis, de l'américaine Otessa Moshfegh, qui s'appelle « Mon année de repos et de détente », traduit par Clément Baud. C'est chez Fayard aussi. Qu'est-ce que c'est que ce repos et cette détente qui dure un an?
Ouais, bah alors accrochez-vous, parce que c'est un roman qui est complètement décalé et qui est génial. Le point de départ, c'est une jeune femme qui a tout pour elle. Elle a de l'argent, elle vit à New York, elle est jeune, elle est jolie. Et là où certains pourraient faire prendre une petite année sabbatique, elle décide d'hiberner pendant un an.
D'hiberner.
Ouais, elle décide de contacter une psy qui est complète, qui est une caricature de psy dangereuse, qui va lui donner donc des psychotropes et des somnifères. Et pendant un an, elle décide de ne rien faire.
Comme ça, elle fait le point un peu.
Ouais, mais en même temps, elle est assez étrange dans son point parce qu'elle reste au lit et elle regarde des films avec Whoopi Goldberg. Hein, c'est uniquement ce qu'elle fait. Sachant que comme ça, bon, vous voyez que c'est un roman qui est très, très déjanté, très décalé, mais il est aussi beaucoup plus profond que ça parce qu'il s'achève sur le 11 septembre. Donc vous voyez que c'est la fin d'un monde avec une réflexion qu'on peut faire. Je terminerai juste en disant que Kirkus, qui est un site américain, a trouvé les mots parfaits pour définir ce livre. Il a dit que c'était le meilleur roman existentialiste qui n'ait pas été écrit par un auteur français.
Et Bret Easton Ellis a adoré.
adoré. Merci beaucoup, Anne-Sophie Rouvelou. On retrouve votre signature dans la revue Page des libraires, disponible précisément chez les meilleurs libraires et également par abonnement. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Alice Seyed. Demain, suite de notre série kubrickienne, nous aurons fort à faire avec Michel Sion pour parcourir l'œuvre du réalisateur. Nous ne pourrons pas parler évidemment de tous les films, heureusement nous avons toute la semaine pour cela. Je rappelle que nos émissions sont téléchargeables et réécoutables en podcast et en ligne, alors n'hésitez pas